Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Nous le chantons, mais es-tu Seigneur dans nos vies? Est-ce que notre volonté est laissée de côté pour faire ta volonté? Est-ce que tu trônes dans le cœur de nos vies? Au cœur de nos vies, est-ce que, Seigneur, nous te laissons faire ce que tu veux avec nous? Tu es le Seigneur de tous ceux qui t'acceptent. Tu n'es pas un Seigneur qui s'impose, mais tu es un Seigneur qui attend qu'on accepte et qu'on te reçoive. Tu es un Seigneur qui, lorsqu'on l'accepte, il y a paix, joie, réconciliation, vie, espoir. Si tu règnes dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur, alors ce sera la vérité, ce sera la sainteté, ce sera la justice. Et ton influence, ta force, exercera sur nous une influence de salut, de vérité, de sainteté, de justice. Seuls, nous ne pouvons pas. Mais si tu es Seigneur dans nos cœurs, alors nous pourrons vivre de ta vie et te ressembler de plus en plus. C'est une croissance, Seigneur, et nous voulons te ressembler. Parle-nous maintenant, Seigneur. Tu es Seigneur. Et devant toi, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs. Nous désirons que tu sois le chef et le maître de nos vies pendant cette année nouvelle qui s'ouvre devant nous. Nous désirons, Seigneur, que toi tu rêves, tu prennes les rênes de nos vies, de nos familles, les rênes et la direction de notre nation. Alors ce sera la paix, alors ce sera l'harmonie. Nous voulons, Seigneur, que par ton influence, nous rejetions le péché, nous rejetions la corruption, nous rejetions les œuvres des ténèbres, nous rejetions l'occultisme. Alors, nous serons au bénéfice de toutes les promesses que tu as faites pour ceux qui s'attendent à toi et que nous avons vu déjà être démontrées chaque fois que ton peuple écoutait ta parole. Tu l'as béni, mais chaque fois qu'ils s'étaient éloignés, Seigneur, la malédiction est tombée sur eux. Ôte la malédiction, ôte la malédiction. Nous voulons la vie. Paix, toi seul, tu donnes la vie. Parle, Seigneur, encore. Instruis-nous encore. Seigneur, ta parole est la vérité. C'est elle que nous voulons. C'est elle, Seigneur, que nous voulons annoncer. Et quand nous prêchons ta parole, Seigneur, ce n'est pas notre avis que nous donnons, mais c'est ce que le Saint-Livre dit et proclame. Et chacun possède ce Saint-Livre. Et chacun peut voir si c'est vrai ou si c'est faux, si c'est juste, oui ou non. Dans ton Saint-Livre, aide-nous à aimer ton Saint-Livre, à le lire et à connaître ta volonté. Merci. En ce premier dimanche de l'année, j'ai choisi un psaume. Un psaume qui a pour nous un psaume qui concerne les temps dans lesquels nous vivons et les avertissements dans lesquels nous avons les avertissements que Dieu adresse, nous adresse à nous, nation du 21e siècle, de l'an 2001. C'est le psaume 2 qui a été écrit en 1047 avant Jésus-Christ. Vous allez me dire que l'esprit de prophétie n'existe pas. Vous allez me dire que Dieu ne connaît pas à l'avance tout ce qui se passe dans le monde, ne connaît pas le cœur de l'homme et ne s'inquiète pas des individus, quels qu'ils soient. Non! Cette parole est inspirée de la première page jusqu'à la dernière. Et c'est pour cela, nous vous disons, vous voulez connaître Dieu, lisez la Bible. Non pas une fois, non pas deux fois, mais 100 fois. Lisez-la et lisez-la encore. Plus vous la lirez en demandant son secours pour ouvrir votre intelligence, plus vous connaîtrez Dieu et plus vous aurez de goût à la lire. Et vous deviendrez intelligent de son intelligence. Toi qui es surchargé de travail, donne un petit temps à Dieu. Lis chaque jour systématiquement un chapitre au moins de la Bible, jusqu'à la couvrir. Fais-le, c'est pour ton bénéfice. C'est le meilleur moment de le faire, c'est quand tout est calme dans la maison. Le matin tôt, tu te caches et tu es là avec Dieu. Il est dit, pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Les peuples de la terre se dressent contre l'Éternel et contre son Messie. L'Éternel qui est dans les cieux, son Messie qui s'est manifesté sur la terre, son envoyé, son oint, qui est la représentation du Dieu créateur, et qui est venu parmi les hommes et qui est appelé fils parce que né d'une femme. Contre l'Éternel et contre son Messie, brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Voilà comment les hommes pensent que l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant et son Messie pensent de leur action parmi les hommes lorsqu'il a mis des limites aux actions des hommes. Ils veulent dépasser les limites que Dieu a mises. Et ils disent, brisons leurs liens de l'Éternel et de son Messie et rejetons loin de nous leurs chaînes. Ils prennent ça pour des chaînes. Il rit celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère. Et dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai oint, qui ai sacré, selon les traductions, mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Quelle est Sion? Quelle est cette montagne sainte? Jérusalem, la montagne de Jérusalem. C'est moi qui ai oint mon roi, car il règnera sur Jérusalem pendant 1000 ans. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre, car il règnera sur la terre entière. Tu les briseras avec un sceptre de fer comme le vase d'un potier. Tu les mettras en pièces, tous ceux qui refusent les limites que Dieu a voulues. Et maintenant, roi, ayez des discernements. Voilà le conseil que le Dieu d'amour donne après avoir exposé aux hommes, exposé leur attitude vis-à-vis de lui. Il donne un conseil, il veut les racheter, il veut les sauver. Et maintenant, roi, ayez du discernement. Recevez instruction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse en tremblant. Embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Voilà. D'abord, dénonciation de la méchanceté, de la sottise des hommes qui veulent passer au-delà des limites que Dieu a faites. Jugement annoncé sur ces rebelles, mais aussi espoir et appel à réfléchir. Ô homme qui est rentré dans le 21e siècle, Ô homme qui a passé le cap de l'an 2000 pour entrer en l'an 2001, prouve ton intelligence, car l'intelligence consiste à connaître Dieu, à obéir à Dieu. La véritable intelligence, c'est de craindre Dieu, de respecter Dieu, de considérer ses voies et ses commandements, de le respecter, de compter avec lui dans nos affaires, dans notre travail, dans nos responsabilités, dans nos gouvernements, de compter avec Dieu. Nous voulons régner sans Dieu. Eh bien, nous porterons les conséquences. Ne sommes-nous pas tous des créatures de Dieu? Ne sommes-nous pas sur une terre qu'il a formée de ses mains? N'est-il pas celui qui envoie la pluie et qui envoie le soleil? N'est-il pas celui qui fait couler le fleuve sans jamais se vider? N'est-il pas celui qui forme l'enfant dans le sein de sa mère et qui donne la joie à ses parents? N'est-il pas celui qui fait pousser le manioc et les racines et les fruits sur les arbres? N'est-il pas celui qui a donné une terre riche et un sous-sol immensément riche? Pourquoi ne voulez-vous pas compter avec Dieu? Où voulez-vous, pourquoi voulez-vous mélanger le Dieu saint et juste et vrai avec les puissances occultes et les puissances des ténèbres et vouloir faire une salade inacceptable? La parole de Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas nous partager avec son plus grand ennemi, Satan, qui s'est révolté contre lui et qui sera bientôt anéanti. Devenez sages, soyez intelligents, car aussi puissant qu'un homme puisse être, il n'est qu'un homme et le nombre de ses années sont comptées. Frères et sœurs, pensez au-delà de ces années-là. Du reste, vous n'en connaissez pas la fin. Vous n'en connaissez pas la fin. Vous n'avez pas connu vous-même le jour de votre commencement. Ce n'est que vos parents qui l'ont connu. Et vous ne connaissez pas non plus le jour de votre fin. Ce n'est que le Dieu puissant qui le connaît. Allez-vous passer cette année? Pourquoi vous comportez comme des hommes et des femmes irresponsables, vous enivrer, vous remplir de boissons, vous détruire le foie par la boisson, vous détruire les poumons par le tabac? Pourquoi vous détruire le corps par la débauche, en attrapant le sida et que sais-je encore, alors que ces années sont si courtes, si courtes, si courtes? Vous ne savez pas quand vous allez partir et vous ne savez pas où vous terminerez ce 2001. Comptez avec Dieu dans votre vie. Devenez des hommes et des femmes intelligents, intelligents qui pensent à l'éternité. Car l'homme, ce n'est pas une poule. L'homme, ce n'est pas une chèvre. L'homme, ce n'est pas un mouton. L'homme, ce n'est pas un animal de la brousse. L'homme, ce n'est pas un lion ou un léopard. L'homme, ce n'est pas un éléphant. L'homme, c'est une âme vivante, une âme. Dieu a mis en l'homme la vie, une vie qui ne finira jamais. Pourquoi vouloir se comporter comme un vulgaire animal alors que nous sommes appelés à devenir des rois? Ne nous laissons pas emporter par de faux raisonnements et la sottise humaine qui ne pense qu'à aujourd'hui, qui ne pense qu'à manger bien maintenant, qui ne pense qu'à se remplir les poches maintenant, et après, et demain, et l'éternité. Y as-tu pensé? Ne laissez pas Satan vous tromper et vous aveugler sur la réalité, car je vous prêche la réalité. Vous et moi, nous sommes faits de la même matière. Vous et moi, nous sommes nés de la même façon. Vous et moi, nous n'avons pas choisi de venir dans le monde. Vous et moi, notre vie a un commencement et une fin. Mais où vas-tu passer l'éternité? Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous l'intelligence. Pourquoi opprimer l'autre? Pourquoi écraser l'autre? Pourquoi chercher à lui prendre ce qu'il possède? Pourquoi supposer tant de mal sur lui? Pourquoi? Il n'y a pas de joie là-dedans. Il n'y a pas de paix là-dedans. De vouloir dominer, écraser son prochain. Il n'y a pas de bonheur là-dedans. Vous voulez le bonheur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. Et ton prochain comme toi-même. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu lorsque tu haïs ton prochain, fait à l'image de Dieu. Tu haïs ton prochain, tu haïs Dieu. Tu as beau venir à l'église, ça ne te sert à rien. Frères et sœurs, nous devons avoir au milieu de nous, nous devons avoir dans l'église de Jésus-Christ, la dimension de l'amour de Christ, de l'amour de Christ, et non pas du jugement. J'ai toujours mal au cœur lorsque je vois des frères et des sœurs qui se parlent méchamment. J'ai toujours mal au cœur lorsque j'entends des frères et des sœurs qui attaquent leurs prochains. Et on sent derrière une animosité, une jalousie ou que sais-je encore. Quand de tels sentiments sont manifestés, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Car celui qui aime son frère craint de lui faire du mal et de le blesser. Oh, que l'amour de Dieu grandisse en nous, que l'amour de Dieu grandisse dans nos cœurs. Frères et sœurs, je parle de choses sérieuses. Une nouvelle année commence, quel va être notre comportement ici dans cette église. Je ne parle pas d'ailleurs, je parle d'ici dans cette église. L'amour supporte tout. Il ne pense pas au mal, il pense d'abord au bien. Il cherche à excuser les fautes des autres. Et il cherche à réhabiliter celui qui a mal fait. Car il sait qu'il est fait de la même façon et qu'il est sujet aux mêmes chutes et faiblesses. Devenons intelligents de son intelligence. Devenons sages de sa sagesse. Notre vie est courte. Et nous ne savons pas quand nous partirons. Et nous ne savons pas si nous arriverons à la fin de l'année. Notre vie est courte. Et nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Allons-nous vivre au jour le jour? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ça, c'est la philosophie des derniers temps. Eh bien, rejetez cette philosophie. Pour nous, enfants de Dieu, demain nous vivrons. Nous n'avons pas le contrôle sur la vie, mais il a le contrôle. Alors, nous avons plutôt intérêt à se mettre en ordre avec lui, afin que lui contrôle nos vies. Car avec lui, ce n'est pas la mort, mais c'est revivre bien mieux. J'attends ce jour merveilleux, ce jour de gloire. Pourquoi le cœur de l'homme est si dur? Pourquoi est-ce que le corps de l'homme est si orgueilleux et insensé? Pourquoi faut-il répéter et dire encore les mêmes choses? Les psaumes ont affaire avec nos relations verticales avec Dieu. Lorsque vous lisez les psaumes, vous voyez la relation de l'homme avec Dieu, de Dieu avec l'homme. Les proverbes ont affaire avec nos relations horizontales entre nous, les uns avec les autres. Il n'y a pas de psaume qui exprime l'âge présent mieux que celui-ci et qui nous donne la réponse de Dieu à la confusion, au conflit, au chaos, aux problèmes qui remplissent notre monde d'aujourd'hui. Frères et sœurs, le monde va mal. Ça ne sert à rien de vouloir se cacher. Le monde va mal. Que va-t-il advenir encore pendant cette année? Combien de guerres, combien de morts, combien de cataclysmes, combien d'inondations, combien de tremblements de terre, combien de volcans qui vont exploser, Combien de réchauffements de la planète? Combien d'ouragans? Combien de destructions? Dieu parle! Les hommes expliquent toujours, les scientifiques expliquent toujours. C'est parce que ceci, c'est parce que cela. Mais bientôt, tu ne pourras plus expliquer. Ta science arrivera au bout. Souvenez-vous que lorsque les enfants d'Israël, Moïse et Aaron, se sont tenus devant Pharaon avec tous les féticheurs et les magiciens d'Égypte, Dieu lui a dit, tu jetteras ton bâton devant eux. Et il se changera en serpent. Il a jeté son bâton devant eux. Le Dieu puissant, le Dieu d'Israël est avec moi. Voilà, un serpent. Les magiciens ont vu ça, ils ont fait la même chose. Plusieurs serpents, 10, 20 serpents. Ah ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le serpent de Moïse a mangé tous les autres. Et Dieu a dit, prends-le par la queue. Il l'a pris, c'est devenu son bâton. Les autres n'avaient plus rien. Alléluia. Jouez avec Dieu tant que vous voulez. Amusez-vous avec Dieu. Opposez-vous à Dieu. Opposez-vous à son message. Opposez-vous à la vérité. Mais moi, je vous dis que mon bâton mangeront vos serpents. Nous n'allons pas avec notre propre force. Nous n'allons pas avec notre propre intelligence. Nous n'allons pas avec notre propre sagesse. Qui suis-je, sinon qu'un pécheur sauvé par grâce? Je ne suis pas ici pour me prétendre et me donner des titres quels qu'ils soient. Non! Je suis un esclave du Dieu vivant. C'est tout. Je tremble. Car c'est lui qui me demandera des comptes lorsque nous nous tiendrons devant lui. Frères et sœurs, devenons intelligents. Et l'intelligence, elle vient de ce livre, et de la communion avec Dieu, et de la recherche de sa face. Voilà d'où vient l'intelligence. Voilà d'où vient la connaissance. Voilà d'où vient la véritable perception que chaque homme devrait avoir de lui-même. Quel genre de perception avons-nous de nous-mêmes? L'excellence? L'homme irremplaçable? L'homme tout-puissant? L'homme qui a droit sur la vie des autres? Eh bien, si c'est cela, c'est une compréhension d'aveugle. Mais quand nous nous connaissons tel qu'il nous a connus, nous ne pouvons que rester humbles à ses pieds et pleurer devant lui. Seigneur, si je puis faire quelque chose, c'est à cause de toi. Merci. Parce que tu as bien voulu m'employer. C'est une grâce. Il n'y a pas de psaume qui exprime plus d'une façon plus parfaite l'âge présent et qui nous donne la réponse de Dieu à la confusion, au conflit, au chaos qui remplissent notre monde. J'ai plein de choses à vous dire, je sais que je n'y arriverai pas ce matin. Mais vous savez que quand on ouvre la parole de Dieu, c'est pas possible comme elle parle, cette parole. Comme elle parle! Oh, que le Saint-Esprit parle à nos cœurs, frères et sœurs! Dieu nous donne la réponse à la confusion et au conflit et au chaos qui remplissent notre monde et notre nation. Bon, laissons le monde tel qu'il est, parlons de nous ici un peu. Un peu. Nous ne pouvons pas nous excuser de nos problèmes et de notre chaos à cause du chaos des autres. Qu'est-ce que nous faisons, nous, de notre côté? Ne serait-ce pas une chose extraordinaire et merveilleuse si notre pays devenait un exemple pour toute l'Afrique? Un pays élite. Un pays où véritablement Dieu règne. Il peut y avoir beaucoup d'églises, il peut y avoir beaucoup de prédicateurs, mais je ne vois pas que Dieu règne encore. Et si nous prêchons un évangile tronqué? Et si nous prêchons un évangile pour plaire à la chair? Et si nous prêchons un évangile pour plaire aux hommes? nous ne réussirons jamais. Notre but doit être de plaire à celui qui nous a envoyés. Soyez mes prophètes. Prêchez mon message. Soyez mes envoyés. Je vous ai donné une parole. Portez cette parole afin que mes brebis vivent. Oh mon Dieu, combien je voudrais que notre pays devienne une élite, un exemple, une force morale au milieu du continent africain, une puissance d'intégrité et de justice, une puissance qui influence les autres qui nous entourent. Et des hommes qui aideraient les autres. Un rêve, je ne sais pas, mon Dieu, si une telle chose arrivera un jour. Et pourtant, ne restons pas sur le négatif. Nous avons suffisamment, nous, entre nos mains, pour influencer beaucoup d'hommes et de femmes dans la vérité, dans la sainteté, dans la justice. Nous possédons! Ne restons pas les bras ballants, on ne peut rien faire, nous sommes qu'un petit peu, mes frères et sœurs, Dieu fait de grandes choses avec peu. Dieu n'a pas besoin de beaucoup. Tout ce qu'il a besoin, c'est d'hommes et de femmes qui se livrent à lui, tels qu'ils sont, qui se donnent à lui, tels qu'ils sont, qui disent, Seigneur, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Ma volonté n'existe pas. Ce que tu veux, je veux le faire. C'est tout. C'est tout. Vous allez trouver et découvrir que quand vous priez ce genre de prière, Dieu va vous mener sur des chemins que vous n'aimez pas. Et je le dis par expérience. Mais vous allez en même temps vous dire, Seigneur, ça fait rien. Tu peux rien faire sans que ce soit brisé. Alors si je dois être brisé sur ce chemin que je n'aime pas, brise-moi. Ce n'est pas moi, mais c'est toi, mon Dieu. Je veux ta gloire, je veux ta gloire. Je veux le salut des perdus. Je veux la vie, je veux communiquer la vie. Si le prix de la vie des autres est ma vie propre, eh bien qu'il en soit ainsi. Il faut d'abord que le grain de blé meure. Et s'il meurt, alors il portera beaucoup de fruits. Lorsque la graine, la semence, est mise dans la terre, elle meurt véritablement. La plante sort, d'accord, mais où est la semence originale? Elle a disparu. Mais sur le pied de maïs, il y a des milliers, des centaines de grains, des centaines. Au départ, il n'y avait qu'une graine. Elle a disparu, d'accord, mais combien d'autres sont sortis? Aide-nous à comprendre cela. Rien pour moi, tout pour toi. Rien pour moi, tout pour les autres. Quand vous parlez et vous priez comme ceci, vous allez voir que vous n'allez rien perdre. Mais Dieu connaît nos cœurs. Vous pouvez tromper un homme, mais pas Dieu. Vous pouvez me tromper moi, mais pas Dieu. Parce que Dieu voit les vraies motivations au fond du cœur. Il lit tout, il connaît tout, il sait tout. Alors n'essayez pas de tromper Dieu. Car il ne peut être trompé. Soyez honnête envers vous-même. L'honnêteté doit se manifester envers soi-même d'abord. Et ne pas raconter à Dieu des choses qu'on ne pense pas. Dieu, dans sa sagesse, a établi des règles. Dieu, dans sa sagesse, a établi des lois. Et il a fait des limites pour le bien de l'humanité. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est simple. Qu'on ne peut pas faire, qu'on ne doit pas faire. Et c'est Dieu lui-même qui a mis ses limites. L'homme les voit comme des liens, comme des chaînes. Vous voyez, on parle aujourd'hui de la nouvelle morale. On parle aujourd'hui de la nouvelle société plus éclairée. On prétend. On entoure tout cela de toutes sortes de raisons, de toutes sortes. On sait mieux. Pensez donc aujourd'hui, dans certains pays, on légalise le mariage d'homosexuels et de lesbiennes. Et on les autorise par la loi d'élever des enfants. Aberration. Aberration. On veut casser les liens que Dieu a mis. On veut casser les chaînes que Dieu a mis. Enfin, les hommes appellent ça chaîne. Laissez-les appeler ça comme ils veulent. Oh, nous sommes une société libérée des contingences, de la morale retardataire de nos anciens. Nous sommes éclairés. Oh là là, je ne veux pas de votre lumière. Votre lumière est une lumière ténébreuse. Je ne veux pas de votre lumière. Dieu a dit, et Dieu a donné des règles, Dieu a donné des lois, Dieu a fait des limites. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qu'on peut faire. Quand je dis on ne peut pas faire, si on veut, on peut les faire. Quand je dis on ne peut pas, c'est relatif. On peut les faire, mais il y a des conséquences négatives qui en découlent. Et ils disent, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes, c'est ce que nous avons lu là. Brisons ces contingences des philosophies du passé, c'est comme ça qu'ils disent, de ces principes religieux étroits. Ils parlent ainsi, pas vrai? Brisons cette morale contraignante. Moi, je suis chrétien, je vais à l'église, j'aime cette jeune fille, je vis avec. Nous avons déjà 3 enfants, qu'est-ce que ça peut faire? C'est comme si on est marié, pourquoi avoir un contrat? Des fois, je suis ébouriffé quand j'entends ce qu'on dit à la télévision et à la radio. On voit ces couples qui sont là. Oui, nous vivons ensemble. C'est mon ami. Tiens, hier soir, j'ai vu ça, par exemple. C'est mon ami. Nous avons des jumeaux. Mon Dieu, pardonne! Ces enfants n'ont pas demandé cette pagaille. Ces enfants, tout ce qu'ils ont droit d'avoir, c'est d'avoir un papa et une maman qui s'aiment et qui restent fidèles et qui sont liés l'un à l'autre. Mais ce genre de mariage, au bout de quelque temps, le mari va dire, oh, moi j'ai une nièce, Seigneur Jésus, dans ma propre famille, une nièce, une fille de ma sœur, qui a vécu pendant des années, je dis bien vécu, pendant des années avec un jeune homme. Ils s'aiment, moi je les ai vus et tout ça, bien habillés. Ils faisaient bien de l'argent tous les deux et tout ça, patati patata. Ils ont suivi leur propre chemin. Quand tonton venait et qu'il parlait de Dieu et de ces choses-là, on faisait des grands sourires. Oui, oui, c'est bon, oui, c'est vrai, tonton, tu as raison, patati patata. Ils ont eu des jumeaux, des mignons petits jumeaux. Et subitement, qu'est-ce qui lui a pris au garçon? Il a quitté. Il l'a quitté. Il a abandonné sa femme. Il a abandonné ses enfants. Il n'a même plus voulu les voir. Ils vivent à Paris, chacun de son côté. Elle est très capable, elle travaille, elle gagne de l'argent et tout ça. Mais elle pleure, elle pleure, elle pleure. Conséquence! Les enfants, plus de papa. Où est papa? De temps en temps, ils vont le voir. Du reste, ils ne sont pas mariés. Quoi, ils ne sont pas mariés? Il y a des gens qui disent, malheureusement, la Bible ne nous parle pas de mariage à l'église. Et même, il y en a qui le prêchent. La Bible ne nous parle pas de mariage à l'église. Quoi donc? Bien sûr qu'elle n'en parle pas. Bien sûr qu'elle n'en parle pas. Autrefois, la morale était bien meilleure qu'aujourd'hui. Autrefois, il suffisait que les familles s'entendent, qu'elles s'entendent, et qu'on prenne des dispositions en bonne et due forme, et qu'on vienne ensemble de la date où ces jeunes vont commencer à vivre ensemble. On fait une grande fête, on se réjouit, on danse, on fait des bons repas, et puis tout le monde sait, à partir de maintenant, ce garçon vit avec cette fille, ils sont mariés. Mais les gens sont, même dans l'Ancien Testament, se sont tellement éloignés de Dieu, ils ont pris des multiples femmes, ensuite, n'est-ce pas, Ils ont laissé leurs enfants pour compte et ils ne se sont pas considérés comme engagés. Alors, les hommes, ça c'est encore une inspiration de Dieu, ont dit, nous ne voulons pas que la famille s'effrite. Et pour cela, nous allons faire un contrat légal, comme une convention entre deux partenaires dans des affaires commerciales. Voilà. Qui vont être liés. Et pour se délier, il faut une intervention de la justice. Pourquoi ? Parce que les hommes ont vu le danger. Et ils ont exigé ce contrat signé devant l'autorité. Gloire à Dieu, pour cela, c'est une inspiration divine. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas fait leur divorce à cause de ça. Et quand ils ont trouvé Jésus-Christ, Dieu a remis l'entente dans la famille. Et ils ont pu vivre une nouvelle vie. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le contrat. Bien sûr que la Bible n'en parle pas. Ça ne veut pas dire que Dieu approuve ta façon de faire. Ça ne veut pas dire que Dieu approuve ta polygamie. Ceci ne veut pas dire que Dieu approuve les enfants que tu fais à gauche et à droite et qui ne sont pas encadrés dans une famille normale. Est-ce que tu me comprends ? Ô homme du 21e siècle, moi je vois que les vrais éclairés, ce sont ceux qui obéissent à Dieu. Et qui marchent dans la sainteté et dans la vérité. Et dans le respect de sa parole. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Ils prennent ça comme des liens. Ils prennent ça comme une atteinte à leur liberté. Est-ce de la liberté que de faire des enfants partout? Est-ce de la liberté que d'avoir 36 000 concubines? Non, c'est de l'esclavage, de la chair. Dans leur folie, ils s'élèvent contre Dieu et contre son oin. Ils s'élèvent, tous ces rebelles-là, parce que je les appelle des rebelles, ils s'élèvent contre Dieu et contre son oin. Mais Dieu leur dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Quelle est sa montagne sainte ? Sion ! On le lit dans la Bible combien de fois ? Et c'est là où tout se passe maintenant. C'est là où la guerre de Sion commence. C'est là où les passions se déchaînent. C'est là où les gens meurent tous les jours. Tous les jours. Et Israël, c'est là où il va apprendre sa plus grande leçon. Car Israël est loin de son Dieu, en sa majorité. Ils veulent la solution de leurs problèmes et leur existence à la force des armes de la chair. Or, ce n'est pas les armes de la chair qui donneront la suprématie. Mais c'est l'intervention du Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël et de Jacob. Mais Dieu dit, c'est moi qui ai oint mon Messie. C'est moi qui ai oint mon roi sur la montagne de Sion. Son oin, nous le connaissons, je devrais plutôt dire, le connaissons-nous, son oin. Il est né à Bethléem, comme un tout petit enfant, son oin. Mais il est fils du Très-Haut, humble, né dans une étable, couché dans une crèche, venu dans le monde pour établir son royaume dont lui est le roi. Est-ce que c'est comme cela que nous comprenons la politique, nous? En venant d'abord, vous voyez, il vient pour régner sur le monde, d'accord? Comment est-ce qu'on cherche à régner sur le monde? Il y en a eu dans le passé. Il y a eu des Napoléons, il y a eu des Hitlers, et leur désir était de régner 1000 ans. C'était bien la philosophie des nazis, ça. Et leur but était de régner sur le monde. N'était-ce pas le rêve de Staline? N'était-ce pas le rêve de tous ces dominateurs qui ont supprimé des millions d'hommes? N'était-ce pas le rêve de Mao Tse-Tung? L'histoire nous enseigne. C'était le rêve à tous. Mais comment? C'est aussi le rêve du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Mais lui, le chemin qu'il a suivi est différent. Apprenez la sagesse. Le chemin qu'il a suivi est différent. Il est venu parmi les hommes. Il est né dans une simple famille de la tribu de Juda, annoncée par les prophètes des centaines d'années à l'avance. De la tribu de Juda, par une intervention divine dans le sein d'une jeune fille vierge. Il est né, pas de place pour lui, sinon que dans une étable. Est-ce que c'est comme cela qu'un grand chef naît? Peut-être, peut-être. Dans les démocraties, il y a des fois des esclaves qui deviennent rois. Mais la Bible me dit, malheur à la nation qui est conduite par un esclave. Ah oui? Bon, je mets esclave entre guillemets. Mais il y a des hommes qui sont esclaves du péché, esclaves de Satan, esclaves de leur ambition, esclaves de leur ventre, esclaves d'eux-mêmes, impossible de se dominer, impossible, impossible, impossible. Mais mes frères, malheur à cette nation. Où est l'exemple? Où est le symbole à suivre? Où est l'exemple? Nous avons besoin d'exemple! D'exemple dans les familles. Oui, papa, si tu as un esclave entre les mains de Satan, quel exemple tu seras pour tes enfants? Maman, quel exemple tu seras pour les tiens? Ah, et dans ta société, toi, grand directeur, toi, à la tête de cette société, de cette compagnie, si tu es esclave de tes passions, de ton argent, de tout ce que toutes sortes de choses. Quel exemple seras-tu pour tes employés? Dis-moi un peu! Lui, il s'est humilié. Il était un exemple pour tous. Il était un exemple alors qu'il parcourait les rues de Jérusalem et de la Judée. Jamais aucune malédiction n'est sortie de sa bouche. Au contraire, il a même prié pour ses ennemis alors qu'il le martyrisait. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Il était un exemple en toutes choses. Et jusqu'à genoux aujourd'hui, il est mon exemple. Et je suis ses traces. Et tous ceux qui l'aiment, pour tous ceux qui l'aiment, il est l'exemple que nous devons suivre. Est-il votre exemple, mes frères? Faites de Jésus le symbole de votre vie, l'idéal à atteindre, l'idéal à atteindre. Lui, il va régner sur cette terre pendant 1000 ans, avant de détruire tout et de faire une nouvelle terre où tous ceux qui l'ont aimé et qui l'ont suivi habiteront avec lui pour l'éternité. Écoutez, frères et sœurs, nous ne vous racontons pas de légendes, nous ne vous racontons pas d'histoires, des sottises, non, des réalités, ce sont des réalités, ce n'est pas un rêve. Oui, quand je lis ça, je rêve, et je m'imagine, et j'essaye de penser, mais je sais que tout cela dépasse mon intelligence humaine. Il est loin de l'Éternel. Il a voulu d'abord venir en sauveur avant de venir en juge, vous comprenez? Il est venu en sauveur, ne méprisons pas. 2000 ans maintenant que ce message du sauveur est annoncé, bientôt il viendra en juge et ce sera trop tard. Pendant 7 ans et demi, ce sera des jugements terribles qui tomberont sur la terre. La Bible nous en parle, ce n'est pas un secret. Humble, né dans une étable, couché dans une crèche, venu dans le monde pour établir un royaume dont lui est le roi. Le roi qui n'est pas venu avec des armées en conquérant et en versant le sang des autres, mais un roi qui est venu. Voici, je suis doux et humble de cœur, a-t-il dit. Il est venu en versant son propre sang à lui, pas le sang des autres, son propre sang à lui pour le salut des autres. Voilà l'exemple. Et croyez-moi, Celui qui a fait cela dépasse en autorité tous les chefs de notre monde. Rempli d'amour, voilà ce qu'il était. Il est venu pour sauver du péché. Il a versé son propre sang afin que celui qui croit, ceux qui croient, vivent, je ne parle pas seulement du temps, mais de l'éternité, vivent par lui. Nous allons nous arrêter ici. Dieu pose beaucoup de questions dans ce chapitre. Je ne sais pas, on verra si on va continuer la semaine prochaine, oui ou non, je ne sais pas. Mais je pense que je vous ai dit ce que le Seigneur voulait qu'on dise ce matin, au commencement de cette nouvelle année et de ce nouveau siècle. Père, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi, Seigneur, et nous réalisons combien nous avons besoin de ton secours et de ta sagesse au milieu du chaos de notre monde aujourd'hui. Rends-nous intelligents. Le péché nous a obturés l'intelligence. Le péché nous a rendus aveugles et sourds. Père céleste, tu es venu pour détruire le péché et tu veux détruire le péché en nous. Seigneur, mon Dieu, aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, détruis le péché en nous. Donne-nous le vrai sens des valeurs. Enfin, Seigneur, que nous vivions. Seigneur, je veux vivre éternellement. Mais pour vivre éternellement, il y a des conditions. Seigneur, donne-moi de remplir les conditions. Non pas seulement moi, mais chacun de ceux qui sont ici. Je voudrais tant, ô Dieu, que pas un de ceux qui sont ici présents ce matin ne soit perdu pour l'éternité. Car si ils rejettent cette parole, ô Dieu, leur jugement sera terrible, car ils connaissent, ils savent, et ils sont responsables dans la mesure des connaissances qu'ils ont reçues. Seigneur, dans ta miséricorde, je te demande, Seigneur, de sauver encore dans cette salle, maintenant. Qui veut recevoir Jésus? Qui veut être réconcilié avec Dieu? Qu'il se lève maintenant, en cette nouvelle année. Qui veut dire, Seigneur, prends ma vie, s'il te plaît. Y en a-t-il d'autres encore? Frères et sœurs, nous traitons de choses sérieuses, sérieuses, sérieuses. Et ceci, c'est devant Dieu. Et ceci, c'est devant Dieu. Cette année, est-ce que nous avons pris de vraies dispositions devant Dieu pour vivre ce temps et cette année? Allons-nous dire non au péché, non aux magouilles, non à la corruption, non à l'immoralité, et allons-nous nous décider à marcher avec lui en nouveauté de vie? Frères et sœurs, nous traitons de choses trop importantes pour être légers et rigoler. Nous ne rigolons pas ici, non, nous pleurons. Père, vois tous ces gens qui se lèvent, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes. Seigneur, dans ta miséricorde et dans ta bonté, je t'en supplie, reçois-les. Reçois-les et que leur vie soit transformée, changée, qu'ils deviennent de nouvelles créatures, des hommes et des femmes changés, à travers lesquels tu te révèles, tu te glorifies. Des hommes et des femmes qui seront des modèles à leur tour pour leur famille, pour leur société, pour la place où tu les as mis. Seigneur, Seigneur, notre pays a besoin d'hommes et de femmes qui sont des modèles qui seront peut-être haïs, mais peu importe, des modèles afin que ceux qui choisissent pour la vie reçoivent la vie. Seigneur, parle. Seigneur, bénis. Seigneur, sauve. Seigneur, lave. Lave dans ton sang et purifie. Car, ô Jésus, c'est encore le jour de grâce aujourd'hui. Reprenez vos places. Nombreux sont ceux qui se sont levés. Frères et sœurs, je vous en supplie que cet acte que vous avez fait aujourd'hui ne soit pas un point d'arrêt maintenant, mais un point de départ pour une nouvelle vie. Nous sommes là à votre disposition. Venez nous parler, je vous en supplie. Nous voulons prier avec vous, vous aider à vaincre l'ennemi et à mettre votre vie en règle devant lui afin de vivre. Père, nous voulons t'apporter notre offrande maintenant, nos dons, nos dîmes.
Nous espérons que vous avez été béni par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.